dernièrement, j'ai vu une stat des clubs les plus anciens
en Ligue 1.
En Ligue 1. Et forcément, le club n'est jamais descendu. Donc ça, ça a été une pression. Parce que tu te dis, moi je me dis en tout cas en tant que sportif, si je rentre dans l'histoire du club à Paris en étant parisien, en faisant partie de l'effectif qui pour la première fois fait descendre le club, franchement ça va être difficile.
C'est pas jouable.
Ouais, c'est dur. C'est dur à assumer ça. Et du coup, oui, ça a mis une responsabilité supplémentaire, une pression supplémentaire, mais qu'il fallait transformer en quelque chose de positif pour pouvoir sauver le club.
Il a joué 224 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 7 buts, remporté 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, 2 Trophées des Champions et il a été sacré 3 fois champion de France. Cette semaine, nous recevons les défenseurs rouges et bleus, Zoumana Camara. Papus Camara, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. On peut se tutoyer, on s'est beaucoup fréquenté sur les bords terrains pendant tes années PSG. J'ai le droit de t'appeler Papus.
Bien sûr.
Papus, ton surnom. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du club quand tu étais petit, la première fois que tu as vu le logo, que tu as vu le maillot du Paris Saint-Germain?
Déjà, bonjour. C'était quand j'étais tout jeune. J'ai commencé au Racing, moi, à Colombes. À l'époque, c'était le Matra Racing. Moi, je suis originaire de Colombes, donc de la banlieue. Et le paradoxe avec ce maillot, c'est que ça a commencé par une interdiction, que c'était le maillot RTL. Et il y avait quelques joueurs qui étaient venus avec à l'entraînement.
Des jeunes.
Des petits. On leur avait gentiment expliqué qu'il fallait mieux venir avec des maillots ciel et blanc et éviter de porter ces couleurs-là au sein du club. Donc ça a commencé, ma première relation avec le maillot du PSG a commencé comme ça. Et bien évidemment, comme c'était interdit, on a vu.
C'est évident.
Et surtout le maillot, il était, esthétiquement, il était beau, il était... La matière, elle était assez épaisse, donc il tenait aussi chaud en hiver. C'est un maillot qui était beau.
Mais c'est un maillot qui est resté dans le cœur des supporters parisiens. On va faire un bond en avant. On va aller directement à la saison 2007-2008, la saison où tu rejoins le Paris Saint-Germain. Bon, ce n'est pas le meilleur moment dans l'histoire du club. Ouais. Le PSG, à cette époque-là, bizarrement, il ne fait pas vraiment rêver. Et pourtant, toi, tu es à Saint-Étienne et tu te bats pour venir au Paris Saint-Germain.
Ouais, il y a deux raisons à ça. La première, l'extra sportif, c'est que personnellement, j'avais eu le décès de mon père.
Mm-hmm.
Donc, quand j'ai eu le PSG, quand j'ai su que le PSG s'intéressait à moi, j'ai voulu revenir à Paris, ou venir à Paris en tout cas, pour me rapprocher de ma famille. Et sur le plan sportif, c'est vrai que le PSG ne faisait pas rêver. Mais à cette époque, je trouvais que le club, il avait quand même une capacité à gagner des titres, que ce soit une coupe, que ce soit Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Mm-hmm. Il arrivait toujours à sortir son épingle
du jeu. Puis ça reste le club de la capitale.
Ça reste le club de la capitale. Donc, par rapport à tout ça, j'ai eu cette envie de venir au club, de venir à Paris.
Alors, la saison, elle ne se passe pas du tout comme vous avez pu l'imaginer. Alors, je rappelle, Paul Le Guen est à la tête de l'équipe. Il était comment entraîneur avec toi, Paul Le Guen?
Non, c'était un bon coach. C'est un coach qui me voulait, qui a tout fait pour me faire venir. Lui et Alain Kézac, mm-hmm. que je remercie tous les jours et que je vois de temps en temps avec grand plaisir quand on peut pour déjeuner. Donc, c'est quelqu'un avec qui je suis resté en contact. Et que je remercierai jamais assez. C'est marrant de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, il a mis 6 millions d'euros. 6 millions d'euros à
c'était
l'époque,
énorme.
C'était énorme. Ouais, aujourd'hui, telles sommes, c'est... Oui, voilà. Mais à l'époque, ouais, c'était beaucoup d'argent. Ils avaient misé sur moi. Avec Paul, la relation, elle se passait bien. Et puis, on était loin d'imaginer qu'on allait vivre une telle saison. Pourquoi ? Parce qu'il avait récupéré le club la saison d'avant.
Puis, il y avait un bel effectif.
Et puis, il avait bien redressé la barre sur la deuxième partie. Ils avaient très bien fini. Du coup, l'ossature était là à peu près la même. Il y a eu 2-3 arrivées. Mais malgré tout, on a vécu une saison très, très, très difficile.
Alors, avant d'aller sur les pires moments de cette saison, moi, je vais commencer par les plus beaux. Le 29 mars, finale de la Coupe de la Ligue, c'est ton premier trophée. Vous vous imposez face à Lens.
Ouais.
Ça se passe comment? Qu'est-ce qui représente ce trophée? Est-ce qu'on arrive dans la tête à oublier que vous êtes 18e en championnat? Vous arrivez quand même à le célébrer?
On arrive à le savourer parce qu'on se dit que si on est capable de gagner un trophée, on est capable de sauver le club. et que ça va nous donner un élan et une certaine confiance. Imaginez le perdre, ça aurait pu aussi
jouer
sur
ça...
le moral et complètement nous faire plonger. Donc oui, ça a été un bol d'oxygène, en même temps une fierté, une satisfaction. Et puis même le fait, au fond, en tout cas moi personnellement, d'avoir signé au club et de remporter mon premier trophée.
La première saison.
Ben oui, je me dis, ben, finalement, j'ai eu raison de venir.
Ouais.
Après, maintenant, il faut sauver le club pour vraiment le valider. Mais ouais, ça a été une satisfaction.
Ben justement, on va arriver à ce 17 mai, Sochaux-PSG, dernière journée de championnat. Tu gardes quoi comme souvenir de la préparation de ce match, des jours avant ?
Ben, on a essayé de le préparer de la manière la plus simple possible, sans se mettre trop de pression, parce que ce match, il fallait quand même le jouer sur le terrain. Et puis, bien évidemment, en étant attentif à ce qui se passe de l'autre côté, je sais que c'était beaucoup avec Lens.
Ouais.
Et il fallait se focaliser sur notre match, sur notre résultat.
Et tu t'es pas dit, non, c'est pas possible, je suis pas venu au Paris Saint-Germain pour aller en Ligue 2.
Ben, et c'est marrant parce que dernièrement, j'ai vu une stat des clubs les plus anciens
en Ligue 1.
Et forcément, le club n'est jamais descendu. Donc ça a été une pression. Parce que tu te dis, moi je me dis en tout cas en tant que sportif, si je rentre dans l'histoire du club à Paris en étant parisien, en faisant partie de l'effectif qui pour la première fois fait descendre le club, franchement ça va être difficile.
Pas jouable.
Ouais, c'est dur. C'est dur à assumer ça. Et du coup, oui, ça a mis une responsabilité supplémentaire, une pression supplémentaire, mais qu'il fallait transformer en quelque chose de positif pour pouvoir sauver le club.
Bon, le club se sauve, il descend pas en Ligue 2. Une semaine après, c'est encore une nouvelle finale de coupe, comme quoi c'était un club de coupe à l'époque, clairement.
Ouais.
C'est la finale de la Coupe de France face à Lyon, vous inclinez face à Lyon. C'était la décompression, il y avait eu trop de pression autour du sauvetage du club en Ligue 1.
Pas forcément. J'ai pas le souvenir d'une équipe qui arrive lessivée sur cette finale. Au contraire, on était concentrés sur l'objectif de pouvoir faire un doublé.
Mm-hmm.
Et face au grand Olympique Lyonnais,
ouais, c'était la grande
qui
époque
avait
de
été
Lyon.
Champion. Et non, on aborde ce match avec une certaine confiance. Et le c'est pas un paradoxe, mais on perd
en jouant mieux.
On a beaucoup mieux joué. On a touché la barre, on aurait mérité de la gagner, mais à la fin, voilà, c'est Lyon qui l'emporte. Mais
pas mal. Une coupe de la Ligue et le club sauvé.
Oui, oui. Et puis on l'avait bien préparé ce match, mais au final, tout rentrait dans l'ordre, on va dire.
Beaucoup de départs à cette intersaison, beaucoup de départs pour la saison 2008-2009. Je pense notamment à Paoletta et Mario Yepes. Paul Le Guen reste à la tête de l'équipe. Comment est-ce qu'on aborde une nouvelle saison après ce qui vient de se passer ? Là, l'objectif, ce n'est pas de rester en Ligue 1. Là, l'objectif, c'est d'aller haut au classement, j'imagine.
Forcément. Déjà, la première chose, on finit, on est lessivé.
Psychologiquement,
T'as laissé tellement nerveusement, plus que l'aspect physique, vraiment. Mm-hmm. C'est mental.
Il faut
recharger les batteries.
Déconnecter.
Faut couper, déconnecter, oublier tout ce qui s'est passé, même si
Bon, il y avait moins de téléphones portables à l'époque, donc pardon. Mais...
C'est sûr. C'était beaucoup plus simple. Et puis après, recharger les batteries pour repartir sur une nouvelle saison. Et bien évidemment, avec cette envie de pas revivre la même chose.
Alors, la saison commence bien, cette saison 2008-2009. Vous maintenez dans le groupe de tête. En Coupe d'Europe, vous jouez la Coupe de l'UEFA, puisque vous avez gagné la Coupe de la Ligue. Ça ressemble un petit peu plus à une saison type que tu attendais au Paris Saint-Germain.
Oui, exactement. Après, le parcours, il est plutôt bon. Cette saison-là, il ne faut pas oublier qu'il y a l'arrivée de Claude Makélélé, Ludovic Juli, qui arrive, un qui arrive de la Roma, Ludo. Et Claude qui arrive de Chelsea. Donc, ils arrivent avec un certain statut, une certaine expérience, avec de l'âge, bien évidemment. Et ils viennent encadrer un peu tout ça. Donc, forcément, ça a amené un plus au groupe, ça a amené de la sérénité pour éviter de revivre ce qu'on avait vécu la saison d'avant. Et c'est vrai que ça a été un gros apport pour nous. Et derrière, la campagne européenne, elle était intéressante.
Quart de finale de l'UEFA et vous finissez sixième. Ouais. Sixième à égalité de points avec Toulouse et Lille. Donc en fait, un peu quatrième. Ouais. J'essaye de... Ça, ouais. En termes de points, quatrième. C'est pour essayer de redorer le truc.
Ouais. Bah, après une saison où on a failli descendre, entre guillemets, là, on revient dans des normes qui ressemblent plus à ce que devait être le PSG, en tout cas.
Mais avec les apports, effectivement, c'était important d'avoir ces joueurs avec vous. Mais sixième, ça signifie qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe à Paris pour la saison 2009-2010. Et donc, il y a un renouvellement. Donc, Paul Le Guen est parti, c'est Antoine Comboiré qui le remplace. Ouais. Il y a du changement à ce moment-là. C'était nécessaire.
Je pense que comme dans tous les clubs, à un moment donné,
un peu de 109.
C'est du 109. Ouais. Mm. Que ce soit à travers l'effectif ou à travers l'entraîneur, amener quelque chose, une énergie nouvelle. Et puis, Paul et Antoine Comboiré, je pense qu'ils se connaissent, ils ont joué ensemble.
Oui. Et au Paris Saint-Germain.
Deux personnalités différentes. Deux personnes qui ont marqué l'histoire.
Ah oui, là, je pense que c'est les deux faces d'une même médaille.
C'est deux personnalités différentes. Et je pense que le club a vu aussi du changement à ce niveau-là. Et d'où l'arrivée de Comboiré.
Mais c'est marrant parce qu'on te perçoit comme quelqu'un de très calme, plutôt placide, loin de tous les cris qu'il peut y avoir autour d'un club de foot. Et donc, ça se passait comment avec les coachs? Toi, que ce soit Paul Le Guen ou Antoine Comboiré, en fait, c'était une... Tu n'as pas changé, en fait.
Oui, après moi, c'est vrai que... Mais je suis comme ça, hein. Je suis calme, je suis assez posé.
Bon, faut pas t'énerver non plus, j'imagine. On va pas chercher.
Ouais, bien évidemment. Mais j'ai cet esprit compétiteur en moi, attention. Mm-hmm. Il se voit moins de l'extérieur que certaines personnes, ou même si on discute, je vais peut-être moins le déclarer, mais c'est là, la flamme elle est là, mais je la dévoile moins en fait.
D'accord.
Mais elle est là, elle est en moi. Et des fois ça me ronge, des fois ça m'empêche de dormir, sauf que j'arrive à la contenir et à pas la montrer.
Ah oui, parce que tu le montres pas. Hein.
Parce que je le montre pas en fait, mais je le montre pas parce que je me force. C'est parce que c'est ma nature. Mmh. J'ai un certain détachement avec ça, mais c'est là. Hein. Et voilà, j'ai appris à vivre comme ça, à vivre avec. Et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouais.
Et donc, quand tu vois arriver Antoine Comboiré, tu te dis, on repart pour un cycle positif. Et pourtant, les résultats, ils ne sont pas tout à fait à la hauteur, puisque pour cette saison 2009-2010, vous finissez 13e. Mmh. Mais vous êtes en finale de Coupe de France et vous vous imposez le sourire sur ton visage en pensant à ce match face à Monaco.
Ouais, c'est marrant parce que ça ressemble un peu à... un niveau moindre à ce que j'ai vécu en 2007,
oui.
C'est-à-dire une saison difficile. Finale de Coupe de la Ligue, on gagne. Et là, avec Antoine, une saison difficile. Mm-hmm. Finale de Coupe de France et on gagne. Ce club, malgré les moments difficiles, il a une capacité, malgré tout, dans certaines compétitions, à avoir un autre visage, à avoir un visage compétiteur. Et c'est vrai que sur le championnat, sur la durée, on a eu du mal au niveau de la régularité. Mais autant dans les coupes, on était tranchants, on était efficaces.
C'est étrange, ça.
Ouais.
C'est très Paris Saint-Germain. Et
ouais, c'est dans l'ADN du club, ça. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Les joueurs issus de la région parisienne ou pas, ils cochent cette date, Parc des Princes, ou recevoir à la maison. Et moi, j'étais de l'autre côté et je l'ai fait aussi quand j'étais pour Saint-Étienne.
Ah oui.
C'était une affiche, voilà. Donc, c'est pas ton problème de savoir les soucis qu'ils ont d'effectifs ou pas. Toi, tu veux gagner le match quand tu le reçois et quand tu viens au Parc... faire un très bon match. Et donc ça, il faut l'assumer.
Mais en coupe, là, cette victoire en Coupe de France, ben déjà, c'est un trophée différent, c'est un deuxième trophée pour toi.
Ouais.
Sur ce match-là, c'est un souvenir particulier. Est-ce que ça enlève un poids en se disant, bon, la saison, elle n'était pas géniale en championnat, mais au moins, on a remporté quelque chose pour nos supporters?
Déjà ça. Et puis moi, j'ai grandi avec un souvenir de la Coupe de France. La finale sur TF1, un président qui descend.
Ah oui, je vois très bien.
Qui serre les mains de tout le monde, le président qui présente les joueurs. Voilà, ça c'est le souvenir que moi j'ai de la Coupe de France. Et pouvoir avoir la chance de la gagner, ouais, moi j'étais fier.
Et puis c'est une compétition où tous les clubs participent.
Tous les clubs participent. D'en bas. Et puis dans cette compétition, on se rend compte que des fois on a des matchs pièges.
Ah oui,
on s'en souvient pas toujours. Quand
ouais,
on arrive
le PSG, on a connu quelques-uns.
Et des fois, voilà, elle commence en janvier. Des fois, les terrains sont pas très bons, voire gelés, il fait froid. Mais il faut faire abstraction de tout ça. Il faut penser beaucoup plus loin, avoir une vision.
Oui, parce que ces matchs de coupe en janvier, juste après les fêtes.
Des fois, le match peut être inversé quand il y a deux divisions d'écart. Quand on a la chance de pouvoir jouer dans un stade professionnel, dans un grand stade, ça va. Mais quand on est obligé d'aller jouer dans un stade où l'ambiance et tout est fait pour qu'il y ait... Et puis, il y a cette mentalité en France où quand tu tiens ton rang...
On aime le petit poussé. Ouais. Hein.
Tu tiens ton rang, oh, ils ont gagné.
Oui, bon, c'est normal.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils sont menés? Il y a toujours match nul, ça va au pénalty. Voilà. Il y a cette envie de voir qui crée la surprise. Et ça, tu le sens dans cette compétition.
Ouais, mais ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est chouette avec la Coupe de France. Et donc, grâce à cette victoire, vous retrouvez l'Europe.
Ouais.
Antoine Comboiré reste à la tête de l'équipe. Le recrutement est intéressant. Je pense notamment à Mathieu Bodmer, Néné. Ouais. Donc, on étoffe un peu l'équipe. Et là, on se dit, bon, il y a l'Europe qui revient. Ouais. On s'attend à quoi comme genre de saison?
Ben, mieux que ce qu'on a fait. Et puis, les joueurs que tu viens de citer, ben, c'est des joueurs qui amènent une vraie valeur ajoutée à l'équipe. Techniquement, des joueurs comme Mathieu Bodmer, on connaissait ce qu'il avait fait à Lille, ce qu'il avait fait à Lyon. Et puis, il était revanchard. Néné qu'on venait de battre, qui on venait d'empêcher
de gagner la Coupe
de France. Donc, forcément, on l'a reçu, les épaules bombées. On était bienvenue chez nous.
Voilà, donc, bienvenue chez les vainqueurs de la Coupe de France.
Ici, tu vas gagner des choses, t'inquiète pas. Néné, il a fait des grandes saisons ici. Mathieu, pareil. Donc, c'était des vraies valeurs ajoutées. Et puis, avec cette envie de ne pas revivre, en tout cas, de faire mieux que ce qu'on avait fait l'année d'avant.
Et c'est le cas, puisque vous finissez quatrième, malgré une défaite en Coupe de France face à Lille. C'est une saison réussie. Quatrième, là, on se rapproche du Paris Saint-Germain.
On se rapproche, ouais, de ce que devait être le Paris Saint-Germain.
De l'attente, oui.
De l'attente. Et surtout, cette saison-là, on est à la lutte avec Lyon pour la 2e, 3e place pour la Ligue des Champions. On n'est pas loin. Et sur la fin, voilà, on craque un peu, mais c'est plus dans les attentes.
Est-ce que c'est un apprentissage post-saison 2007-2008? Est-ce qu'on commence à arriver à un aboutissement de quelque chose? Parce que c'est le traumatisme 2007-2008 avec ce dernier match où il faut se sauver à Sochaux. Est-ce que ça se reconstruit petit à petit? Là, on est 4 ans après.
Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on ne sort pas comme ça, intact, d'une saison...
C'est difficile à expliquer qu'un club garde ça en lui, même si les joueurs passent. Parce que là, tu commences à être parmi les anciens du club. Hein. Tu es là depuis 2007-2008.
Oui. Moi, je pense que ça fait partie d'une histoire. Ça fait partie de l'ADN d'un club. Tout comme avoir cette capacité à pouvoir gagner des trophées, c'est quelque chose qui va rester. Tu peux changer l'effectif, tu peux ramener des nouveaux joueurs. Mais dans l'état d'esprit du club, dans l'environnement du club, tu sens que c'est des choses qui sont faisables et possibles. Tout comme ce traumatisme, eh ben, il peut être profond, il peut être là, il traverse l'esprit. Et du coup, tu ne passes pas d'une équipe que tu sauves de la descente, de sa première descente historique, à jouer les premiers rôles et à être championne. Donc forcément, c'est des étapes et il fallait passer par là.
Nouvelle étape, une étape cruciale pour le club, c'est intersaison 2011-2012, changement majeur avec l'arrivée de QSI comme nouveau propriétaire du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, le président. Il y a un changement dans le recrutement. Là, c'est... Comment vous le vivez, vous? Du jour au lendemain, le club change de dimension. Alors, ça commence par une dimension financière différente, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se passe.
Forcément, tout le monde en parle. On entend dans les journaux, on le voit physiquement, puisqu'il y a l'arrivée officiellement de QSI. Derrière, il y a Leonardo qui prend le poste. Directeur sportif. Donc là, concrètement, voilà, on sent que ça y est, ils ont pris les choses en main. Mais je trouve que le recrutement, il a été fait de manière intelligente. Il a été fait par étapes, puisqu'il commence par des joueurs quand même du championnat. Comme Blaise Matuidi, comme Jérémy Ménez, ou Momo Sissoko, Mohamed Lamine, qui est quand même français, franco-malien, qui connaissait aussi le championnat, même s'il a quitté très jeune. Donc, je trouve que c'est un recrutement intelligent. Et avec ça, bien évidemment, Javier.
Pastore. Alors là, on a Pastore et le record, parce qu'à l'époque, c'était un record.
Je pense que c'était aussi un moyen d'envoyer un message
à tout le monde,
au monde du football, en disant, voilà, on arrive, on est là et on va compter. Donc, je pense que voilà, plus que la somme, ce qu'il fallait regarder, c'était aussi le joueur. Parce qu'à la fin, la somme, elle était énorme. Mais le joueur, il était exceptionnel aussi, Javier.
Ah, il a fait rêver, il a fait tomber amoureux beaucoup de gens du ballon rond. En tant qu'ancien, vous vous dites quoi? Parce qu'il restait quelques anciens avec toi. Tu te dis, bon, bah, c'est l'opportunité. De toute façon, je suis au niveau, je vais jouer et on continue. C'est trop beau de voir cette aventure. J'ai pas envie de passer à côté.
Ben, il y avait deux façons de le voir. Ou tu te dis, oula, ça sent pas bon pour moi, moi je quitte le navire parce que là, j'aurai pas ma place.
Mm-hmm.
Ou tu te dis, j'ai connu des tempêtes, des... bateau il a chaviré.
Ouais, je vais profiter du soleil.
Je vais quand même profiter maintenant, il y a ce qu'il faut, j'ai envie de vivre ça.
Mm-hmm.
Et moi, j'étais plutôt dans cette deuxième option de me dire, voilà, j'ai vécu des moments difficiles, des moments de joie aussi parce qu'on a réussi
à gagner. Vous avez gagné.
Et du coup, maintenant, le club, il a des moyens financiers. Pourquoi est-ce que je vais fuir? Envie de vivre ça. Et donc, j'ai voulu rester, j'ai voulu vivre ça. Puis derrière, j'ai eu la confiance aussi du club qui m'a redonné une saison.
Là, pour ce début de saison, Antoine Camboire reste entraîneur, ça se passe bien. Est-ce que, avec tout ce qu'on vient de dire, vous sentez plus de pression quand vous vous déplacez ou ça reste de toute façon le Paris Saint-Germain, que ce soit le Paris Saint-Germain QSI ou le Paris Saint-Germain d'avant, de toute façon, il y a la pression?
De porter le maillot du Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive à l'extérieur ou qu'on aille, on est l'équipe à battre, c'est l'équipe de la capitale, ça reste le Paris Saint-Germain. Là, je sentais de la curiosité de la part des observateurs ou des gens qui venaient, des supporters adverses. Et puis derrière, on avait quand même une très bonne équipe. Hein. Le parcours,
belle, hein.
Il est pas mal. Ouais, le parcours, il est pas mal. Cette saison-là, on est à la lutte avec Montpellier.
Oui.
Qui fait une bonne saison. Donc,
Montpellier fait une grosse saison. Vous, je vais m'arrêter une seconde sur la Coupe d'Europe. C'est moins bien. Alors,
ouais,
vous ne qualifiez pas pour la phase à élimination directe. Est-ce que tu sens déjà à ce moment-là que la grosse pression, elle va être sur les compétitions européennes?
Pas forcément. Parce que je pense qu'ils ont réfléchi de manière logique. Il faut retrouver un certain statut, une certaine domination sur le plan national.
D'accord.
Avant de penser à l'Europe.
Mm-hmm.
Et du coup, c'était de revenir sur le plan national et d'essayer de regagner un titre de champion. Déjà gagné dans son championnat avant de penser à l'extérieur et à l'Europe. Et donc, du coup, cette élimination, forcément, on était déçus. Mais derrière, on a senti quand même cette envie de la part du club de vouloir revenir sur le plan national et on est resté focus sur ça.
Alors, il y a Leonardo qui fait venir l'un de ses anciens amis, Carlo Ancelotti, en tant qu'entraîneur. Vous êtes premier à la trêve, mais il y a ce changement d'entraîneur. Et Ancelotti, il arrive avec les valises pleines, puisqu'il ramène Maxwell, Thiago Motta.
Ouais.
Tu te dis quoi en entrant dans le vestiaire et tu vois Carlo Ancelotti comme entraîneur du Paris Saint-Germain? Sans manquer de respect à ceux d'avant,
hein,
qui ont
beaucoup
gagné en France et...
Ben, tu te dis, c'est une chance. Hein.
Waouh.
Tu te dis, waouh. Tu te dis, c'est une chance. Il accepte. Il accepte le projet. Il y croit. Donc, ça renforce aussi tes convictions.
Tu te dis que tu vas apprendre plein de choses?
Forcément. L'expérience qu'il a, le vécu qu'il a, à la fois en tant que joueur et à la fois en tant qu'entraîneur. Les trophées qu'il a gagnés. L'expérience qu'il a acquis, puisqu'il sortait déjà de plusieurs championnats. Hein.
Bien sûr.
Bien évidemment, avec le Milan AC, il avait marqué les esprits. Et puis à Chelsea aussi. Donc, c'était avant qu'il parte en Allemagne. Mais oui, il avait déjà cette expérience à l'international. Et du coup, voir arriver un tel entraîneur. Et puis moi, c'est facile de dire, mais c'est son côté humain. C'est ça, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus.
C'est
parce que l'entraîneur,
exactement.
C'est sa gestion, en fait, humaine. Et il m'a bluffé, moi, sur ça. J'avais pas d'a priori, mais j'ai été surpris de par l'envergure qu'il était qu'il avait en tant qu'entraîneur, mais la simplicité et cette manière de faire attention à tout le monde et à tout, j'étais surpris de ça.
Et c'est marrant parce qu'avec tous les trophées qu'il a gagnés en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, généralement, ce qu'on dit, c'est que sa plus grande qualité, c'est sa qualité humaine.
Oui, parce que je pense qu'à
encore
la fin...
Encore plus que ses capacités d'entraîneur.
Oui. Moi, c'est marrant, ça, j'ai passé les diplômes ici en France à Clairefontaine, là, le dernier diplôme, et on avait un cours sur ça. Il y a pas mal d'anciens joueurs. Et quand on nous demandait quels souvenirs on gardait de nos entraîneurs, les premiers souvenirs qui reviennent, ce n'est pas les souvenirs tactiques ou les séances.
Mm-hmm.
C'est humain. C'est un rapport
humain. La gestion
humain.
Des...
Ouais. Il était gentil, il était bienveillant, il n'était pas gentil. Ouais, je ne l'ai pas aimé parce qu'il était comme ça. C'est l'humain qui revient. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de place dans le management. Et on ne peut pas occulter les deux. Être un très, très bon tacticien et être froid humainement, pas avoir de rapport, ça peut avoir
des failles.
Il manque quelque chose. Et de l'autre côté aussi, hein, on peut être l'entraîneur le plus sympa du monde.
Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas non plus. Donc, ils font un mix des deux. Mais le rapport humain, il prend une place importante.
Alors, j'imagine que c'était évidemment une grande chance d'apprendre avec lui. Le reste de la saison, c'est une sorte d'apprentissage géant pour toutes les recrues, comme si les choses étaient en train de se mettre en place. Vous finissez deuxième. Mmh. C'est une grosse déception de ne pas avoir remporté ce titre.
Une déception, oui. Après, on savait que le club avait fait des choix, avait pris des risques. Mais parce que le club avait aussi été opportuniste.
Mmh.
Parce qu'Antoine, il aurait pu finir cette saison. Il était promis à la trêve. Mais est-ce qu'à la fin de la saison, Carlo, il aurait toujours été disponible?
Oui, bien sûr, c'est des choix.
C'est toutes ces questions et ces choix. À ce moment-là, voilà, il avait une très bonne cote, il était libre. Il a accepté le projet. Et puis derrière, ça a donné 6 mois pour convaincre des joueurs comme Ibra, comme Thiago, par la suite.
Oui.
Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais après, on restait des compétiteurs et on perd à la dernière journée le titre. Puisque nous, on joue à Lorient, on gagne. Et je me souviens que le match, il a arrêté Auxerre-Montpellier. Et y a un moment même où Auxerre avait ouvert le score. Mais derrière, voilà, Montpellier a fait ce qu'il fallait.
Et le Montpellier de Giroud.
Oui, ils ont fait une grande saison, il n'y a rien à dire. Et puis, ils ont logiquement...
Tu parles du côté compétiteur. Tu nous as rappelé combien toi, tu l'avais ancré en toi. Sauf que tu joues moins dans cette période-là.
Ouais.
Et il se passe quoi dans ta tête? Après, tu n'as plus 20 ans.
Mm-hmm. Hein,
mais tu te dis, j'en profite encore un peu. De toute façon, je vais grappiller du temps de jeu. Ça se passe comment?
Ouais. C'est de se dire, le club est en train d'investir, ou en tout cas d'acheter ce qui se fait de mieux en Europe et dans le monde. Moi, j'ai envie de me frotter à ce genre de joueur. J'ai envie de travailler au quotidien avec ce genre de joueur. Et j'ai envie de me battre tous les jours pour essayer de me gagner ma place. Même si je savais qu'avec les saisons et l'âge, j'allais beaucoup moins jouer. Je pouvais être un joueur qui pouvait avoir son importance. On n'est pas obligé de la... On peut l'avoir en jouant et en étant un joueur majeur. On peut l'avoir en étant un joueur de vestiaire,
Mais il faut une sacrée intelligence pour accepter qu'effectivement, les années passent, c'est plus la même performance physique. Mm. Il faut avoir une sacrée intelligence pour accepter que le rôle peut être autre chose que d'être titulaire à tous les matchs.
C'est sûr. Oui, il faut
En tout cas, une capacité d'analyse.
Oui, une capacité d'analyse. Faut pas être trop orgueilleux. Faut pas, voilà, toutes ces choses-là.
Ah ouais.
Mais ça collait avec ma personnalité en même temps, donc j'avais pas de souci avec ça. Et puis il y a une chose importante, c'est que j'avais connu l'Italie avant, quand j'étais jeune.
À l'Inter.
Du coup, le club dans son premier changement,
il devient très italien.
Très italien. Et du coup, moi j'ai ces deux cultures, hein, puisque j'ai fait qu'un an et demi, deux ans en Italie. Mais
jeune, donc ça marque.
Voilà, ça marque. La manière dont moi j'ai été accueilli là-bas par les joueurs, je parlais encore la langue. Donc forcément, moi j'ai essayé aussi d'aider ceux qui arrivaient. Et j'ai
naturellement... T'étais comblé d'avoir ce rôle? T'étais quelque part, ça te rendait heureux?
Ouais, j'étais moi-même.
Ouais, ouais.
Donc, j'étais moi-même et on me le rendait en me faisant sentir que j'étais important. Et après...
L'intelligence du coach.
Ouais. Des fois, le coach, il m'appelait, et Carlo, il m'appelle et tout, dans son bureau. Là, qu'est-ce qui se passe?
Tout de suite, oh là là.
Je vais jouer et tout. Et il me dit, voilà, je vais faire une réunion tout à l'heure. Il me dit en italien, atteggiamento, comment ça se dit en français? Je lui dis attitude. Oh, ouais, attitude. Il note. Il note 2-3 points comme ça. Après, des fois, il me dit, je vais dire ça, ça. Je dis, non. Si tu veux le dire en français, ce que tu viens de me dire en italien, il ne faut pas le dire comme ça. Tu utilises ça, ça, ça. Yeah, ok. Après, il me dévoile tout ce qu'il veut dire.
Ah oui, sacrée marque de confiance, dis donc.
Mais c'est une marque de confiance, ça. Il ne me dit pas, ne dis rien.
Ah oui.
De manière naturelle.
De toute
façon. Oui. Et il me dit, voilà, je vais dire ça, je vais parler de ça, parce qu'en ce moment, on a besoin de ça, ça, ça. Je dis, ok, coach, il n'y a pas de problème. Je sors de là. Ben forcément.
Bon, tu joues pas, mais quand même.
Ben oui, il y a une responsabilité, donc je vais pas aller forcément dans le vestiaire et dire, ouais, coach, non. Moi, comme si de rien n'était. Et puis derrière, il fait son speech.
Mais c'est sans doute cette façon d'être que tu as qui fait que tu deviens très proche des recrues qui arrivent à cette période-là. Je pense notamment à Zlatan Ibrahimovic, qui lui, c'est un autre palier que le club passe avec l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva. Bon, il y a Lavezzi aussi qui arrive cette année-là. Il y a Marco Verratti qui est tout jeune, mais qui arrive cette année-là. Là, ça y est, c'est le club des superstars. Et toi, tu as une place qui est... Comme si c'était une pierre angulaire, en fait. T'es pas forcément titulaire, mais t'es au milieu.
Au milieu, ouais. Ouais, c'est le bon terme, je suis au milieu. Ouais, on rentre dans une autre dimension avec l'arrivée de Ibra, de Thiago. Mais les choses se passent bien. Je me souviens d'Ibra qui nous rejoint aux États-Unis.
Ibra qui arrive au Paris Saint-Germain. Enfin, là aujourd'hui c'est facile, hein, mais de se dire bah oui, bien sûr c'est possible puisque plein de grands joueurs ont signé au PSG en ayant déjà une belle carrière derrière eux. Mais Ibrahimovic qui arrive au Paris Saint-Germain, déjà il arrive comment dans le vestiaire? Il dit bon, vous êtes qui?
Non, pas comme ça, mais il avait fait une conférence de presse.
Il avait dit
je connais pas forcément le championnat de France, mais j'imagine que. Ou je suppose que tout le monde me connaît ou quelque chose comme ça.
Qui était vrai du reste.
Qui était vrai au fond. Mais il aimait bien jouer avec ça. Oui. Il avait ce côté où il était très joueur avec les médias. Je pense que ça plaisait aussi aux médias. Hein,
oui, bien sûr.
Ça...
Bah, il manque beaucoup, beaucoup au championnat de France et il manque beaucoup au football en général.
Oui, bien sûr. Et puis derrière, c'est un garçon qu'il ne faut pas avoir. Il est observateur. Il se nourrit de. Qu'il a vécu et il a amené une certaine exigence. Il y a Mathieu Bodmer qui a repris souvent l'exemple de l'histoire des sacs qu'il ne voulait pas porter. Mm-hmm. Lui, depuis l'Ajax, il ne porte plus ses affaires parce que ça doit être fait par les intendants.
C'est hyper intéressant cette histoire. Je vais te laisser la raconter parce que c'est à double tranchant. Ça peut aussi donner l'image d'une attitude. Certains l'ont critiqué, ont pu le
non, parce que après, il faut. C'est comme dans les relations et c'est comme dans tout. Si tu connais pas l'autre et tu connais pas d'où il vient ou ce qu'il vit à l'extérieur ou sa culture, tu peux pas porter un jugement. Faut connaître. Mmh. Moi, j'avais été en Italie, j'avais 19 ans en 98, quand la France était championne du monde. À cette époque-là, les intendants, ils prenaient déjà les affaires.
Oui, mais c'est...
On voyageait qu'avec des trousses de toilettes. Moi, j'ai connu ça. Derrière, les clubs que j'ai faits, je m'adapte. J'ai que 20 ans, j'arrive dans des clubs, je vais pas dire « Oh, ici,
moi,
à 19 ans, on portait mes... » Non, lui, quand il arrive, il est Zlatan. On le prend pour quoi? On le prend pour ce qu'il va apporter.
Sur le terrain et en dehors.
En dehors du terrain. Du coup, si lui, il estime que pour le bien-être des joueurs, il faut cette organisation-là, ben, le club, il l'a mis en place. Et si ça reste encore aujourd'hui, c'est que c'était bien. Sinon, elle n'aurait pas existé. Mais oui, l'anecdote, c'est quoi? C'est qu'il arrive et il trouve ses affaires... devant la porte.
Rien que d'y penser, j'ai envie de rire, pardon.
Et lui, il voit ses affaires et il est comme un fou. Et il arrive, il appelle l'intendant et il dit « Oh, Zlatan Ibrahimovic. » Il dit « Depuis que j'ai l'âge de 18 ans, moi, à l'Ajax, on ne prend pas mes affaires. Moi, je ne prends pas mes affaires. On me les ramène. Et on les lave et on vient me les déposer. Moi, je ne les porte pas. OK ? Ça ne va pas être que pour moi, ça va être pour toute l'équipe. D'accord ? » Et là, tu as le... Ce qu'il a dit.
Ah, bah oui, évidemment. Il pourra parler en anglais, bien sûr.
Il sent qu'il a dit quelque chose de très important.
Voilà.
Il va falloir qu'il exécute.
Mais il ne sait pas trop quoi.
Maintenant, il faut attendre l'explication et voilà, la traduction. Donc, on lui explique, etc. Et tout. Il dit, ouais, non, mais ça ne dépend pas à moi. Il faut qu'on donne tout et qu'on mette en place et que ça s'organise. Et bien évidemment, après, ça a été fait. Mais à Ibra, c'était ça, qui a amené des améliorations et des choses. qui servent à la vie du club, des joueurs, mais tout ça dans un souci de la performance pour pouvoir gagner. Ça, c'est évident. Pas pour lui, pour les joueurs.
Et tout de suite, vous avez une bonne entente ? Après, tu l'as dit toi-même, c'est quelqu'un de très observateur. Il devait être bien content d'avoir quelqu'un qui parlait l'italien et le français. Ouais. Et quelqu'un, surtout, si Carlo Ancelotti avait déjà confiance en toi, c'était peut-être plus facile pour ces joueurs qui arrivaient. Ils sont tous italophones.
Ouais, ça a bien pris.
Après, t'étais joueur, hein, t'étais pas traducteur.
J'étais joueur, mais il parlait beaucoup en anglais.
D'accord.
Malgré qu'il avait joué en Italie, il y a une certaine... facilité à instinctivement, il parle beaucoup anglais. Exemple, on était proches avec Maxwell aussi. Mm-hmm. Si on est trois à table, ça va être anglais.
D'accord.
S'il y a un joueur qui vient, si c'est Lavezzi ou Thiago, il va un peu parler italien. Mais dès qu'il va vouloir dire autre chose, boum, ça va être en anglais.
D'accord.
Et ensuite, voilà. Donc, il avait cette facilité à parler anglais. Moi, je me débrouillais en anglais. Donc, forcément... Ça a bien pris. Puis bon, c'était marrant parce que...
Mais non, mais tu nous as dit, il vous rejoint aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était la tournée d'été.
Et il est très observateur. Hein.
Mais après, il faut rentrer à l'ancien camp des loges.
Ouais. Donc là, il arrive, les terrains, les vestiaires.
On est loin de Milanello, hein, du Milan AC.
Oui, mais il est loin d'être stupide, je veux dire. Il sait qu'il vient de faire un sacrifice, entre guillemets, sportif sur le plan structure. Bien évidemment que financièrement, voilà, il est peut-être pas perdant. Mm-hmm. Mais il ne s'attend pas à voir les structures qu'il avait au Milan. Justement,
mais que ce soit lui ou Thiago Silva, d'ailleurs.
Le projet de grandir avec le club et justement de les utiliser, eux, pour grandir. Donc oui, les débuts n'ont pas été faciles à travers la langue, la culture. Il y a eu quelques couacs, il y a eu quelques tensions, mais ça fait partie de la vie d'un vestiaire. Et je ne serais-ce que serrer la main le matin quand on arrive et dire bonjour. En Italie, on vient, on dit buongiorno, ciao,
ouais, bonjour,
mais c'est comme en Angleterre.
Ah oui, bien sûr.
Tu dis morning, tu regardes peut-être même à peine les gens, ouais. Et ça suffit. La culture française, tu serres la main à quelqu'un. Déjà, si tu serres la main, tu ne le regardes pas.
Ah oui, c'est la fin du monde.
C'est la fin du monde. Alors, revenir et pas serrer la main, c'était quelque chose de... Et après, tout ça, il fallait l'expliquer.
Ouais,
mais des deux côtés.
Mais c'est hyper intéressant, en fait, ouais. Ce mélange des cultures dans un vestiaire. C'est ouais. Chacun apprend de l'autre, en
chacun
fait.
Chacun apprend de l'autre.
Et à la fin, ça se passait comment ? Vous disiez bonjour à la cantonade où il fallait... Non, je veux savoir qui a imposé son habitude.
Non. À la fin, ils ont compris et ils serraient la main. Moi, je pense, c'est un avis, ça regarde que moi. Ils sont venus en France, ils doivent s'adapter à la culture française et faire un effort. Si ça avait été en Italie et ils ne serrent pas la main, on ne va pas imposer de serrer la main.
Ah oui.
Si là-bas, c'est... Voilà, ici c'était comme ça. C'est important pour les Français, faites-le. Serrez-leur la main le matin quand vous arrivez et tout ira bien. Et tout est rentré dans l'ordre.
Magnifique, sur des serrages de main, c'était l'intégration. Superbe. On parle de cette saison. La deuxième place de la saison précédente vous permet de jouer la Ligue des Champions. Vous en avez rêvé de la Ligue des Champions.
Ah bah oui, forcément.
Parce que là c'est la musique au parc. C'est le premier match, c'est PSG Kiev,
ouais.
Gagné 4-1.
Ouais.
C'est un souvenir particulier.
Ouais, c'est un souvenir particulier. Je me souviens, j'ai remplacé Thiago sur ce match. Je suis rentré à la fin. L'ambiance. Le retrouver la musique, la victoire au bout. Et puis, tu sens que le club et l'équipe est un concurrent sérieux.
Mm-hmm.
Voilà, il est pris, tu ne l'as fait pas pour la faire.
Là, tu l'as fait pour aller loin.
Ouais, tu l'as fait pour aller loin et tu fais partie. Tu commences à faire partie de ces équipes qui comptent, en tout cas qui ont pour objectif de vouloir la remporter.
Mais vous allez loin d'ailleurs cette année-là, jusqu'en quart de finale face au FC Barcelone.
Ouais, le grand Barcelone de l'époque. Ouais.
Oui, le grand Barcelone, donc vous faites 2-2 au parc, un partout au Camp Nou. C'est Alors oui, c'est le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais il y a un petit peu d'amertume quand on repense à ces matchs-là.
Ça se joue à des détails, ça se joue à des petites choses. Mais je veux dire, un club, il grandit. Et
oui, c'est pas toujours
le temps. On peut pas acheter le temps. Et ces clubs, ils sont historiques, ils sont là depuis pas mal d'années. Ils ont un vécu, ils sont habitués à ce genre d'événement. Là, c'est le retour du club. Et je pense que le club, il est éliminé, mais il sort la tête haute. Ce grand Barcelone, il fait 2-2 chez toi, un partout là-bas. En plus, on ouvre le score, on est qualifié. Javier, il marque. Voilà. Et derrière, ils égalisent, mais tu sors par la grande porte malgré tout. Et le message que tu envoies, c'est que tu vas être là et que tu vas compter dans les saisons à venir.
Et justement, quand vous rentrez au vestiaire après le 1-1, vous êtes éliminé, mais vous avez été plus que digne. C'est quoi le discours? Alors, je ne sais pas qui s'exprime, si c'est Carlo Ancelotti, si c'est Zlatan qui dit quelque chose.
Non, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de mots parce que on reste des compétiteurs. Hein.
Ah bah oui.
Ça, c'est le discours que je tiens aujourd'hui. J'avais tenu 5 minutes après le match. Il passe pas. Hein. Mais c'est laisser retomber. Et puis après, un retour à Paris, ça a été un peu le discours, c'est de dire revenir plus fort, retenir les leçons de ce qui n'a pas été bien fait pour pouvoir franchir ce cap la saison d'après. Et puis se concentrer sur le championnat, essayer de gagner.
Oui, parce qu'il faut le gagner, ce championnat.
Pour pouvoir y retourner, donc, et le gagner, le regagner en tout cas.
Et comment ça se passe avec les supporters? Parce que bon, les supporters qui vivent ces années-là, c'est souvent des supporters qui étaient là depuis longtemps, qui n'ont pas vécu que des bons moments avec le club. Est-ce que c'est une joie immense pour eux que de vivre ces moments-là? Ou est-ce que, comme vous, l'appétit vient en mangeant, ils deviennent de plus en plus exigeants? C'est normal. Moi, on me fait manger 100 Ligue des Champions pendant un moment, je vais être contente le jour où elle arrive. Mais après, fois qu'on y est, on n'a pas envie de s'arrêter en quart de finale.
Ouais. On a un peu des deux.
Mm-hmm.
Des gens qui se souviennent d'où était le club il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, qui savourent. Et puis, il y en a d'autres qui sont très impatients, qui commencent à goûter à ça. Veulent déjà... voilà, donc il y avait les deux. Mais
toi, tu as toujours une bonne relation avec les supporters.
Ouais, parce que c'est marrant, les années galères, ça a renforcé les liens avec les supporters.
Mais parce que déjà, t'es pas parti, tu t'es battu.
T'es toujours été là, on se souvient de ces années-là. Et je retrouve des fois même là aujourd'hui des supporters, on va pas dire qu'ils sont nostalgiques de cette époque.
Non, mais je crois que personne ne l'aime.
par rapport aux résultats. Mais ils ont aimé ces passages et ces équipes qui sont battues, ces joueurs qui sont battus pour les couleurs.
Mais après, toi, t'es un monument du club. 224 matchs officiels.
Ouais.
Oui, non, c'est beaucoup quand même.
Ouais, c'est un peu beaucoup. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on m'avait dit ça en arrivant, j'aurais peut-être pas cru. Je suis arrivé en 2007. On est en...
Non, ouais, là, on est sur les années... là, c'est 2011-2012.
Ouais.
Et c'est le... 2012-2013, pardon. C'est le premier titre de champion de France que tu remportes avec le Paris Saint-Germain. Ouais. C'est ton plus beau trophée?
Ouais, c'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est le plus beau parce qu'on a paradé dans Paris.
Oui.
Et ça, je ne sais pas si ça pourra se refaire.
C'est compliqué, je crois.
Vu les dégâts qu'il y avait eu ce jour-là. Mais on a été jusqu'au Trocadéro, on était dans le bus.
Le bus impérial.
Impérial. Ah, ça reste un souvenir énorme. Les gens tout autour, on est arrivé jusqu'au Trocadéro, à la place, comme ça.
Face à la Tour Eiffel.
Ouais. Faire le fêter dans l'enceinte du parc, c'est magnifique aussi. Hein.
Ouais, bien sûr.
Mais je ne sais pas si on pourra revivre ça. Et souvent, les choses, elles n'ont pas la même saveur quand elles restent uniques.
Ah ben là, c'est pas prévu pour tout de suite, mais sur cette saison, la saison suivante, pardon, après ce superbe titre de champion de France, Carlo Ancelotti quitte le club, il est remplacé par Laurent Blanc. Tu es un ancien. Laurent Blanc va tout de suite s'appuyer sur ton expérience. Laurent Blanc, c'est un profil différent. Déjà, c'est un entraîneur français.
Ouais. Ben, il arrive... Il arrive déjà avec une bonne image, avec un entraîneur qui fait jouer ses équipes, qui les fait bien jouer. Il a l'expérience de ce genre de vestiaire, la gestion de ces joueurs-là, parce qu'il a été, lui, un grand joueur.
Il a remporté le championnat de France avec Bordeaux.
Il parlait plusieurs langues, puisqu'il parlait aussi italien. Il a joué à Naples. Moi, j'ai joué avec lui à l'Inter quand j'étais jeune. Donc,
ah oui
moi, je vais arriver à un entraîneur avec qui j'ai joué. Et donc, c'est marrant parce que la première fois, quand on se voit avec le président Nasser, il dit « J'ai joué avec lui. Hein. J'ai joué avec lui, moi. » Et donc, on a rigolé de ça. Et non, ça c'est, avec Laurent, ça s'est bien passé. Naturellement, oui, il a fait partie. J'ai fait partie des joueurs sur lesquels il s'appuyait. C'était avec plaisir parce que c'était un entraîneur que je connaissais. Et j'avais aussi envie qu'il réussisse. Donc, ça a réussi.
C'était des belles années. Réussite.
Ouais, c'était des belles années. Les gens parlent souvent de les années Laurent Blanc.
Oui,
j'estime que c'était un football.
Il y a une nostalgie en fait de ces années-là.
Ouais.
C'est assez étrange parce que enfin il y avait Carlo Ancelotti avant, c'était quand même ouais. Carlo Ancelotti, mais il y a une nostalgie des années avec Laurent Blanc à la tête de l'équipe. Peut-être c'est l'effectif aussi qui avait un côté, je sais pas si c'est attachant le terme qu'il faut dire, mais compétitif
ouais,
en tout
compétitive,
cas.
Et après je trouve que Laurent il est arrivé, ce qu'il a mis en place est tombé. Avec la maturité de certains joueurs.
Mm-hmm.
L'éclosion de Marco,
oui.
Qui était encore un peu trop jeune quand Carlo est arrivé. Et puis, derrière, entre lui, Thiago, qui au début, Thiago Motta, il a eu beaucoup de blessures, à répétition. Il a eu du mal à enchaîner. Derrière, il a réussi à rééquilibrer ça et à enchaîner les matchs. Et Blaise, du coup, cette triplette au milieu, elle était impressionnante. Parce qu'ils avaient des qualités, mais des qualités différentes, mais complémentaires.
Ouais.
Du coup, on a trouvé un sacré équilibre avec ces trois joueurs. Et ça permettait d'avoir une certaine maîtrise.
Et tout se passe bien, en fait.
Ouais.
Dès le mois d'octobre, vous êtes leader, vous allez rester leader. C'est une des plus belles saisons que tu aies vécues à l'intérieur du club.
Oui, parce
même
que...
Même si tu ne jouais pas beaucoup.
Oui, parce que les joueurs, on s'appréciait beaucoup. On se voyait en dehors, beaucoup.
Mais ça se voyait, en fait.
On passait beaucoup de temps. Ouais,
sur le terrain, ça se voyait.
C'est un vrai groupe. Et on a créé quelque chose de fort. Et derrière, on était capable de se gérer. Il y avait le coach, Laurent, qui était le boss. Donnait les directives. Mais il donnait aussi pas mal de responsabilités.
Vous êtes... Oui, parce que ce n'était pas des gamins. Oui, voilà.
C'est un groupe mûr. Ouais.
Vous vous qualifiez une nouvelle fois pour les quarts de finale face à Chelsea. Victoire 3-1 à domicile et défaite 2-0 à Stamford Bridge. Celle-ci, elle fait mal.
Ouais, elle fait mal. Elle fait mal. Parce que quand Javier met le troisième but qui slalome au parc, tu penses vraiment que là,
c'est 3-1 quand même.
Ouais, 3-1. Tu te dis là quand même, tu voyages sereinement. Et puis, comme tous les matchs européens, t'es serein.
Fallait pas.
Et puis, quand t'arrives sur place. Comment ça t'entraîner, tu te dis
le doute,
même, demain,
oui.
Il faudra.
Oui, parce que.
Voilà, parce que tout est possible. Et puis après, quand les choses elles vont pas dans le sens que tu désires, et qu'un premier but prié derrière Dembaba. Ouais, ça fait partie du jeu.
Est-ce que au sein du vestiaire, c'est déjà officiellement la même chose qu'on entend, la même petite musique qu'on entend à l'extérieur, c'est-à-dire il faut remporter la Ligue des Champions. Est-ce que c'est quelque chose qui obsède le vestiaire?
Je pense que c'est un message qui a été envoyé, ça n'obsédait pas le vestiaire, parce que les joueurs, ils ont conscience de la difficulté qu'il faut pour gagner cette compétition. Il faut que pas mal de choses soient réunies. Du coup, les joueurs, ils sont loin, ils sont très mesurés et ils savent quand est-ce que ils peuvent obtenir quelque chose ou pas. Quand c'est le moment là d'appuyer, parce que et quand c'est le moment d'être là, d'avancer sereinement. Et non, il n'y avait pas de... On ne sentait pas cette obligation, cette obsession de vouloir...
Mais elle était bien présente à l'extérieur, en tout cas.
Ouais.
Vous remportez le titre de champion de France et la Coupe de la Ligue, mais on a l'impression que c'est devenu un petit peu normal déjà à cette époque. Bon, c'est normal que le Paris Saint-Germain remporte tout. Est-ce que c'est énervant pour un joueur, ce côté bon, c'est normal que le PSG gagne?
Ouais. Parce qu'on minimise, on banalise... Du coup, comment vous voulez qu'un joueur qui vient, par exemple, de l'étranger, il trouve ça important, s'ils sentent de la part des propres supporters quelque chose de mis de côté en disant « Ouais, mais ça, on s'en fout, on l'a déjà gagné, on veut viser ça. » Comment vous voulez que lui, il sente une importance d'en gagner un championnat?
D'accord.
S'il sent que pour les supporters,
ça compte,
c'est secondaire, ça compte pas. Et ça, je ne l'ai jamais compris. Je ne sais pas, moi, j'ai l'exemple de l'Allemagne qui me vient en tête. Pourquoi l'Allemagne? Parce que le Bayern, c'est une équipe qui domine depuis tant d'années son championnat.
Oui, il pourrait
pas
dire...
toujours.
Ouais.
Et les fans, ils pourraient dire à un moment donné...
Oh, c'est pas grave, on s'en fiche.
Quand je les vois arriver avec sur la terrasse, là, et qu'ils sont, et le monde et la joie, ils ne se lâchent jamais de gagner, en fait. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Et il faut que ces choses-là reviennent au premier plan.
La joie de remporter le championnat de
foot. La joie et l'importance de gagner les trophées au niveau national, ouais.
Bon, alors, la saison 2014-2015, tu sais que c'est la dernière pour toi. On est bavard, pardon. Alors, tu es un ancien, mais on sait ton importance dans le groupe. Laurent Blanc est le premier à la souligner. D'ailleurs, quand la saison commence, tu te dis « Mon Dieu, c'est la dernière ».
Pas encore. Quand je la commence...
Tu penses pas, tu te prépares normalement.
Ouais, je prépare normalement. Franchement, je prépare normalement.
Mais c'est une belle année.
Ouais, c'est une belle année. Franchement, c'est une belle année.
On est sur un cru exceptionnel. Tu gardes des souvenirs particuliers de cette saison-là?
Les trophées un peu qu'on a amenés, on a été tous soulevés au... Je crois que c'était au Stade de France.
Pour la Coupe de France.
Ouais, pour la Coupe de France. Après, forcément, moi, je me souviens de mon dernier match.
Justement, c'était contre Reims.
Contre Reims, ouais.
La haie d'honneur des joueurs.
Ouais.
Et ces moments-là, ils disent beaucoup de la personne que tu es, en fait, au-delà du joueur. Parce qu'il y avait... alors, j'ai cherché un petit peu dans les archives. Il y a un hommage unanime de tous tes coéquipiers de l'époque et de quasiment tous les joueurs avec qui tu as joué.
Ouais.
C'est pas normal que tout le monde nous aime comme ça.
Ben après, j'essaye d'être moi-même. J'essaye pas forcément d'être aimé de tout le monde parce que c'est impossible. Mais j'essaye de... j'ai été éduqué comme ça. Et de redonner à l'autre ce que moi, j'aimerais recevoir. Voilà ce côté un peu empathique. Mais de traiter les gens avec du respect... D'essayer d'être honnête, d'essayer d'être droit.
Mais ça, c'est vu dans cette haie d'honneur.
Je m'y attendais pas.
Les larmes ont coulé.
Ben, forcément, après. Même dans l'après-midi, hein, j'étais pas très bien avant le match. Parce que tout ce que tu fais, tu te dis, c'est la dernière fois en tant que joueur.
Ouais.
Du coup, il y a plein de trucs qui reviennent. Tu passes 20 ans à jouer. Et là, tu te dis, ah ouais, la collation, c'est la dernière. À la réunion, c'est la dernière.
Ah, c'est dur, ouais.
Ouais, c'est pas facile. Et puis, dans la préparation du match, chaque fois que tu lèves la tête, tu croises le regard d'un joueur et tu sens qu'il...
Il le sait, lui aussi.
Il le sait, lui aussi. Il y a plein de trucs qui peuvent remonter et tout. Il fallait rester concentré malgré tout sur le match parce qu'il fallait pas gâcher la fête et il fallait quand même que...
Mais je crois que les autres...
Par une victoire. Donc.
Les autres, ils tenaient aussi pour toi.
Ouais. Mais c'était important, ça a été une belle fête. Et des fois, moi, j'en avais conscience hein, que j'ai eu beaucoup de chance de finir comme ça au parc, ovationné. Une très belle fête avec une victoire.
Et l'émotion de finir avec le maillot du Paris Saint-Germain, c'est ton club ouais. Forever and ever.
Ah ben là, je suis tatoué PSG à vie. Mais quand j'étais venu, je pensais m'installer, gagner des titres. Après, j'envisageais pas forcément la fin. Mais si on m'avait dit en arrivant que 8 ans après, je serais encore au club et que je finirais ma carrière, j'aurais peut-être eu des doutes. Mais oui, ça s'est produit. Et puis derrière, avec l'opportunité de...
C'est ce que j'allais dire. Non seulement, là, tu termines ta carrière au club, mais en plus, tu commences ta nouvelle carrière au club aussi, en tant qu'adjointe de Laurent Blanc. Alors, t'es pas resté qu'avec Laurent Blanc, puisque tu as été aussi l'adjoint avec Unai Emery et Thomas Tuchel. Bon, c'est un peu ce que tu faisais déjà.
Ouais.
Sauf qu'à l'époque, tu jouais, mais...
C'est ça. Là, je le fais, mais avec...
Mais t'as pas besoin de courir pour t'entraîner.
Officiellement, côté staff.
Ouais.
Donc ça, c'était pas facile. Hein. Parce que quelques mois avant, j'étais avec les joueurs.
Mais hein. C'est dur hein, de passer...
T'es à table comme ça avec les joueurs, on rigole. J'arrive quelques mois après, j'ai le polo de la couleur de l'entraîneur. Hein.
Mm.
L'entraîneur adjoint. Les couleurs entre joueurs et staff sont différenciées d'équipement.
Et l'attitude.
Ou l'attitude. Et puis, bon, c'est des chambreurs, les joueurs.
Non,
des chambreurs,
hein. Tout. Surtout pas à l'époque.
Du coup, moi, quand j'arrivais, c'est chut, il est là. je parle plus. Donc, voilà, il fallait bien prendre ses blagues. Il fallait que j'arrive à trouver ma place.
Trop accepter d'être chambré, puisque tu n'étais plus parmi les joueurs.
Oui, mais après, ce qui faisait ma force à ce moment-là, je ne suis pas susceptible.
Donc, tu m'apprendras comment on fait. Juste comme ça, pardon.
Je ne sais pas si ça s'apprend, mais en tout cas... Et du coup, toutes ces choses-là, je les prenais pas mal. Et je pense que ça aurait été une grosse erreur de vouloir me positionner en disant... Parce qu'ils n'auraient pas compris, en fait.
Oui,
on a une relation et moi, par rapport au travail, on me donne un autre rôle. Et là, je te dis, non, on rigole plus, là, arrête.
Tu vas pas comprendre, non, ça aurait été compliqué, oui.
Tu te dis, mais on a toujours fait ça, tu peux rester toi-même. Ça aurait été compliqué. Et du coup, quand ils rigolaient avec moi, moi, j'en rajoutais. Et moi, je prenais mon téléphone, je dis, allô, coach. Ouais, ils sont là. Lui, ouais. Ouais, sinon, je vous raconte tout après. Je rangeais mon téléphone, ils rigolaient. Et du coup, après,
Alors, il y a eu des bons moments.
Ouais.
Et puis, il y a eu des moments plus difficiles. On ne va pas refaire toutes ces saisons que tu as vécues en tant qu'adjoint. Je suis obligée de passer à Barcelone,
ouais.
qui est le traumatisme encore aujourd'hui. Peut-être que c'est une erreur, d'ailleurs, de dire que c'est le traumatisme. En tout cas, ça fait partie de l'histoire du club, la remontada. C'est pour toi le pire souvenir que tu as vécu avec les couleurs du Paris Saint-Germain?
Ouais, franchement, j'ai pas connu... Émotionnellement, j'ai pas connu quelque chose de... Il m'a autant touché... que ça. Après ce match, t'as plus envie de sortir, t'as envie de voir personne. Et tu t'es pris entre... Il y a un peu tout, hein, rage, déception, énervement, t'as le sentiment d'injustice, d'avoir perdu le contrôle. Il y a plein de choses qui se... Mais c'était difficile.
Et quand on est dans le staff, comment on fait pour remonter les joueurs? Parce que tout ce que tu décris, j'imagine que les joueurs le vivaient aussi. Mmh. Sauf qu'il faut repartir et puis il faut continuer la saison, il faut la terminer.
Il faut la terminer. C'est l'audace sportif, hein, d'avoir cette capacité à pouvoir se relever, à regarder devant et avec les autres compétitions, à essayer d'oublier en fait et à passer à autre chose. C'est ce que Unai à l'époque a réussi à faire et c'est ce que les joueurs aussi ont réussi à faire.
Bien sûr.
Même si ça a été difficile.
Et il a fallu repartir. Il y a eu d'autres éliminations un peu violentes qu'on a pu, enfin, peut-être mal vivre. Je pense à celle contre Manchester United. Mais c'est pas pareil.
Ouais, c'est pas pareil. Elle est dure parce qu'à l'aller, on fait un match sous contrôle. Tout se passe comme prévu. On a le sentiment que le retour va être une formalité. Ils ont une hécatombe de blessés. Et à la fin, il y a le coup du sort sur pas mal de choses. Mais c'est dur. Moi, je me souviens de... Il y a Presnel qui vient contrer un ballon, il se tourne. Siffler là-dessus, enfin... Il y a des décisions... Quand c'est écrit que ça va pas être ton jour... Tu peux analyser, il y a des toutes petites décisions qui peuvent aller dans l'autre sens et qui vont contre toi. Et quand il y en a plein de petites comme ça, tu sens que ça va pas bien se passer. C'est ce qui est arrivé ce jour-là, malheureusement.
Bon, on va finir sur une note plus joyeuse. Tu entraînes aujourd'hui les moins de 19. Voilà, c'est bon, y a quand même de la Youth League, hein, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions.
Ouais.
C'est une nouvelle vie. Est-ce que tu es heureux dans cette nouvelle vie?
Très heureux. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est passionnant. J'ai l'impression d'avoir un peu tout connu dans le club. Et puis là, est à la formation.
Tu as surtout connu l'époque où tu portais tes sacs et l'époque où tu portais plus tes sacs. Je veux dire, c'est quand même capital. Est-ce que les U19 portent leurs sacs?
Ils portent leurs sacs parce qu'ils sont jeunes.
Pas en équipe première.
Ouais, voilà. Il faut quand même.
Il y a même, des étapes quand même.
Hein. Il faut des étapes quand même. On va pas tout leur donner tout de suite. Donc non, ils portent leurs sacs, ils portent leurs affaires.
Et pour puis, toi aussi, c'est une nouvelle étape.
Oui, c'est une nouvelle étape. Je me sens entraîneur. Et je me sens aussi un peu éducateur.
D'accord.
Ouais, de leur inculquer des valeurs. Avec tout le respect que j'ai, bien sûr, ils ont des familles, ils ont reçu une éducation. Mais ils sont dans un âge où on les a, nous, au quotidien, tous les jours. Mm. Donc, du coup, ouais, on leur donne aussi des valeurs de respect, de...
Travail.
De travail, de résilience. Donc, il y a pas mal de choses, des mots comme ça... Qui colle à l'image du club ou en tout cas à l'ADN du club. On essaie de leur donner ça parce que quelque part, on est là pour les accompagner, mais ils vont pas tous réussir. Mais il faut en faire des hommes et derrière, il y a autre chose. Donc, c'est important. Et puis, ouais, c'est plaisant. C'est plaisant de travailler et de voir que ce qu'on met en place, et ben derrière, ça prend forme. Les joueurs s'améliorer. Il adhère
passer
à ce
en
qu'on
équipe
met
première.
En place. Ouais.
Marquer des buts en Ligue des Champions.
ouais. Donc c'est plaisant, ouais. C'est plaisant de voir qu'on arrive à les aider, en tout cas à faire partie de leur parcours pendant un certain moment.
Avec le Paris Saint-Germain dans le cœur.
Ah ben ça restera indélébile. Ça restera à vie. Aujourd'hui, je peux. Enfin, c'est impossible de faire autrement, mais je suis marqué à vie Paris Saint-Germain, mais honnêtement, avec le plus grand plaisir, ça.
Merci beaucoup, merci pour ces confidences, Papus.
Merci, Laure.